Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Fais pour un.
Orange juice with that ice, madame.
Thank you.
L'été comme jamais.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment ose-t-on? Comment ose-t-on parler de bonheur sans nuages pour dire que tout va pour le mieux, que c'est triste et monotone, un ciel simplement bleu? Ce matin, consacrons une heure à ces grands troupeaux de gouttelettes d'eau qui traversent le ciel, qui ne sont jamais les mêmes et qu'on contemple partout, ou presque, dans le monde. Ils portent des noms qui nous embarquent dans la rêverie. Cumulus, Nimbus, Stratus, Cirrus. Nul besoin de connaître ces mots d'ailleurs, encore moins de les comprendre pour s'adonner au plaisir simple d'observer les nuages. Êtes-vous de ceux qui jouent à distinguer des formes? Essayez-vous plutôt de comprendre comment ils se déplacent, comment ils changent de silhouette en permanence? Il y a tant à dire sur leurs couleurs, leur diversité, leur mystère, leur fragilité. Figurez-vous qu'on peut même les manger. C'est parti, regardez les nuages.
Dorothée Barba sur France Inter.
Avec deux invités qui aiment les observer et qui aiment en parler. La première est écrivaine et traductrice japonaise installée en France, Ryoko Sekiguchi. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes venue l'été dernier dans cette émission et nous avions assez rapidement évoqué votre passion pour les nuages. Voilà qui mérite une émission entière.
Super.
Écrivaine, traductrice, mais aussi gastronome. Vous avez publié aux éditions de l'Épure cette merveille de petit livre qui vient d'être réédité d'ailleurs. Le nuage, 10 façons de le préparer. Car le nuage se mange, vous allez nous l'expliquer. Votre ouvrage le plus récent est un voyage culinaire au Liban cette fois. Son titre, 961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent. Le ciel de Paris vous désespère-t-il ce matin, Ryoko Sekiguchi?
Oh non, mais parce qu'on peut jamais se plaindre de ce que fait le ciel, mais c'est vrai que par exemple au Japon pendant les vacances d'été, on a toujours des très beaux nuages et c'est vrai que on ne peut pas parler de l'été japonais sans parler de nuages japonais.
Alors que nous, on a plutôt tendance à s'en plaindre, instinctivement.
Ouais,
mon deuxième invité est physicien. Bonjour Christophe Galfard.
Bonjour.
Bienvenue, vous avez à cœur de transmettre votre savoir aux enfants depuis plusieurs années. Et vous avez notamment écrit une trilogie de romans jeunesse, Le Prince des Nuages, édité chez PKJ. Alors on suit dans ces romans les aventures d'enfants qui s'opposent à un tyran, un grand méchant qui veut transformer le climat en une arme de guerre. Alors pour l'empêcher de nuire, ces enfants vont devoir comprendre les nuages notamment. J'aimerais commencer par vous demander à tous les deux un souvenir, peut-être le plus beau nuage que vous ayez jamais vu, ou alors une histoire liée à un nuage, Christophe Galfard.
Ah, je me souviens enfant, par exemple, aux États-Unis, en Floride, figurez-vous, que j'étais avec ma mère et mon frère dans une voiture, et on a vu arriver vers nous une sorte de tempête tropicale, un nuage mais colossal qui apparaît dans le ciel bleu et qui s'est abattu sur nous, sur la voiture, et des trombes d'eau sont tombées, l'eau est montée sur la route, on a eu très peur. Et on a réalisé en quelques minutes la puissance du ciel qui nous entoure et qui nous dépasse, mais totalement, c'était fabuleux.
Il y a eu ce jour-là un déclic, peut-être une envie de comprendre ce qui s'est passé au-dessus de votre tête?
Alors je ne sais pas si c'est ce jour-là qu'un déclic est apparu, mais ça nous fait appartenir à un monde qui est beaucoup plus vaste que nous, beaucoup plus puissant que nous et qui inspire le respect finalement.
Ryoko Sekiguchi, une histoire de nuages.
Oui, alors c'est toujours le nuage qui se mange, mais c'est toujours enfant, au Japon. Pendant les vacances d'été, en fait, on a toujours ce cumulonimbus, mais qui est très très beau, qui ressemble à la crème glacée, et une boule, deux boules, et... Par exemple, quand on est en train de s'amuser, dehors, et quand il y a la troisième boule qui arrive, on se dit bon là, ça c'est les prémices de l'orage. Ah. Donc on lisait toujours les nuages par rapport à un nombre de boules de glace.
À deux boules de glace dans le ciel, on continue à jouer.
Ouais,
la troisième boule, on s'inquiète.
Ouais, voilà.
J'attends vos témoignages et vos histoires de nuages, chers auditeurs et auditrices. Appelez-nous au 01 45 24 7000 ou écrivez-nous un message à la page de l'été comme jamais sur le site de France Inter. Vous pouvez également nous laisser une note vocale sur l'application France Inter. comme les Australiens de Parcells. C'était Free sur France Inter. Levez le nez au ciel et admirez ses formes en coton. Nous parlons des nuages ce matin avec le physicien Christophe Galfard et l'écrivaine Ryoko Sekiguchi.
France Inter, l'été comme jamais.
Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique ? Ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère ? Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Tes amis, vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu. Ta patrie, j'ignore sous quelle latitude elle est située. La beauté, je l'aimerais volontiers déesse et immortelle. Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger ? J'aime les nuages. Les nuages qui passent, là-bas, les merveilleux nuages.
Vous avez peut-être reconnu la voix d'Arletty lisant un poème de Baudelaire, extrait de Petits poèmes en prose. Les questions les plus simples sont parfois incontournables, Christophe Galfard. Qu'est-ce qu'un nuage ?
Des petites gouttes d'eau, des gouttes d'eau minuscules, des gouttelettes qui flottent dans le ciel. Et... ils sont d'une certaine manière l'expression de tellement de choses qui ont à voir avec notre propre existence. Pour que des nuages existent, par exemple, tels que les nôtres, des nuages faits d'eau, il faut que les températures soient correctes, pas trop chaudes, pas trop froides. Il faut que l'existence d'eau liquide soit possible. Et ça a complètement à voir avec la position de notre planète, la composition de notre soleil, notre position dans l'espace, l'existence d'une atmosphère, l'existence de toutes ces conditions qui font que la vie est possible. Du coup, on habite une planète qui a de l'eau liquide à sa surface et qui est bombardée en permanence de rayons du soleil qui viennent faire s'évaporer cette eau qui est tout autour de nous, que ce soit dans les terres ou dans les mers et océans. Et cette eau va monter dans le ciel sous forme de vapeur. Mais en montant, l'air se refroidit, la pression baisse, et il arrive un moment où l'air ne peut plus contenir de vapeur d'eau sous forme de gaz, donc de vapeur. Mmh. Et cette eau, cette vapeur d'eau, va se concentrer autour de petites poussières qui traînent un petit peu partout dans le ciel, qui peuvent venir de volcans, qui peuvent venir de mille autres choses, et reformer des petites gouttes. Quand il y en a une ou deux, ça se voit pas trop. Quand il y en a énormément, eh ben, ça devient des nuages que nous avons dans le ciel.
Voilà, ce sont des petites gouttes et pas de la vapeur d'eau, parce qu'on commet souvent cette erreur. Ryoko Sekiguchi, vous passez beaucoup, beaucoup de temps à regarder les nuages. Est-ce que vous diriez qu'ils sont différents dans chaque pays ?
Ah oui, je pense. Je n'ai pas voyagé partout dans le monde, mais chaque fois, c'est on peut parler presque, vous savez, de terroir. Mmh. Quand on parle de produits de terroir, je pense qu'il y a des nuages de terroir, parce que justement les nuages de Japon ne sont pas les nuages de la France. Et puis aussi, par exemple, quand j'ai passé un an à Rome, j'étais aussi émerveillée par les nuages mais propres en Italie. Propre à cette ville et qui est très différente, par exemple, du nuage qu'on connaît à Paris. On peut presque, je pense, reconnaître la ville en regardant les nuages.
Et alors, ce sont des gouttelettes et pas de la vapeur. Vous le saviez déjà, évidemment. Est-ce que ça change l'intérêt que vous portez aux nuages ?
Ah bah oui, bien sûr, parce que vous savez, en fait, le caractère, les lettres, en fait, qui en japonais et en chinois, pour signifier le nuage, la partie supérieure est faite de 4 gouttes d'eau. Ah. Donc, quand même, on sait.
Il y a des gouttelettes dans votre façon d'écrire le mot nuage.
Voilà.
En japonais. Un très beau message d'auditeur nous parvient sur le site de France Inter. Une histoire à propos de nuages, ça se passe dans un café de la banlieue parisienne. Il y a une quarantaine d'années, je suis le seul client, écrit-il. Le fils du patron fait ses devoirs dans le bistrot. Soudain, l'enfant s'adresse à son père, qui lit le journal derrière le comptoir. Papa, c'est quoi un cumulonimbus ? Le père réfléchit et il répond « Nimbus, c'est un professeur. Cumulo, ça veut dire faire plusieurs choses, alors ça peut vouloir dire un professeur qui travaille dans plusieurs écoles. Je me demandais si je devais intervenir, nous dit cet auditeur, quand le père ajouta « Mais ce soir, je vais vérifier dans le dictionnaire. » Alors j'ai payé mon café et je suis partie. Josiane nous appelle au standard de France Inter. Bonjour à vous, Josiane.
Bonjour.
Bienvenue.
Je finis ma tartine.
Allez-y, une gorgée de café et racontez-nous si vous aimez les nuages.
Donc, comme je le disais à votre collègue, je suis contente d'avoir une émission sur les nuages parce que là, je regarde, je suis dans la Drôme et il n'y a rien à voir dans le ciel. C'est ennuyeux. Et je fais partie de la Cloud Appreciation Society. Donc, comme son nom l'indique, c'est anglais.
Voilà, une société donc, des amateurs de nuages, effectivement.
Voilà, et ça rassemble des amateurs de nuages du monde entier qui mettent des photos sur Internet. Donc, on voit toutes sortes de nuages magnifiques de Nouvelle-Zélande, de justement peut-être du Japon ou d'Afrique du Sud, etc. On voit des mamages, on voit des lenticulaires, etc. Et pour participer, on s'inscrit, on paye une somme. Vous savez, comme les Anglais, une somme du genre £1.22, et on reçoit un petit badge avec un nuage pour s'accrocher à la veste. Et Gavin, qui est le modérateur, toutes les semaines, il analyse une photo de nuage.
À quoi cela tient-il qu'une photo de nuage soit réussie, à votre avis, Josiane?
Ben, déjà, je vois des paysages dans le ciel que je ne vois jamais en France. Des couleurs, des formes, je ne sais pas, en plus ce sont tous des amateurs, ils n'ont pas forcément des appareils photos, je pense, extrêmement sophistiqués, mais ils lèvent la tête.
Ils lèvent le nez. Merci, voilà. Merci, ça, mille fois. Merci mille fois de nous avoir téléphoné. Finissez votre tartine et très bonne journée à vous. Effectivement, cette association britannique, Cloud Appreciation Society, nous jurons de combattre partout la pensée du ciel bleu. C'est ce qu'on lit dans leur manifeste. Et vous êtes membre, Christophe Galfard?
Absolument, je suis membre numéro 12445.
Wow. Vous avez envoyé beaucoup de photos?
Non, pas du tout, mais je trouve ça, ce que je trouve très drôle par rapport à on pourrait considérer que c'est une sorte de forme de réseau social aussi. Et ce que je trouve très drôle, c'est que les nuages, moi j'ai passé mon enfance à ennuyer toute ma famille pour rester des heures à attendre un coucher de soleil pour pouvoir le prendre en photo. Et partout dans le monde, je voulais voir le soleil se coucher et les nuages rougir et devenir orange, etc. Et personne n'en a rien à faire des photos qu'on prend. Donc on essaie de les montrer, tout le monde s'ennuie, tout le monde. Donc il y a un groupe dans lequel on puisse montrer ces photos. C'est très agréable.
Vous êtes ici chez vous, Christophe. Nous aussi, on aime les photos de nuages. Le mot dièse Cloud Porn, qui regroupe des photos de nuages sur Instagram, compte 25 millions de publications. Wow. Vous n'êtes pas seul. Vous aussi, Ryoko, vous prenez des photos de nuages.
Oui, alors, reçoit les photos de nuages donc de mes lecteurs. En fait, moi, quand j'ai fait ce livre donc sur le comment cuisiner les nuages, ouais, je pensais avoir fait un petit livre sympathique. Alors, je reçois, mais vraiment par Instagram, des lecteurs en fait qui disent ah oui, alors j'ai trouvé les nuages appétissants, et puis même d'une hôtesse de l'air qui m'envoie régulièrement les photos de ces nuages. Enfin, un peu moins ces derniers temps, parce que bon. Voilà, mais enfin, elle prenait des photos et des vidéos.
Nous sommes légion, finalement, Christophe Galfard.
À la sortie du Prince des Nuages, c'était il y a quelques années maintenant, mais avec PKJ, l'éditeur, on avait organisé un petit concours des plus belles photos de nuages du grand public, et on s'attendait à recevoir une vingtaine, trentaine de photos. On en a reçu plusieurs milliers, et du coup, j'ai dû toutes les regarder pour choisir celle que je préférais. C'était assez drôle.
Je vous pose la question que je posais à cette auditrice, mais à quoi ça tient qu'une photo de nuages soit réussie, d'après vous?
Je pense que c'est vraiment le plaisir que prend le photographe ou la photographe.
Et la silhouette peut-être.
Et la silhouette, certainement, les contrastes, les couleurs, les émotions qu'on peut ressentir, ce genre de choses.
Il fallait évidemment que cette association britannique, la Société des amateurs de nuages, soit britannique. Il y a que là-bas que ça peut exister, ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe?
Non, je ne vois pas pourquoi. Non, on a organisé.
C'est une idée anglaise.
Le concours là de photos, c'était en France qu'on l'avait organisé.
Une question d'un auditeur. Franck nous demande combien pèse un nuage, Christophe Galfard.
Alors c'est pas facile de répondre à cette question. Déjà, les nuages peuvent avoir des tailles qui varient énormément. Les plus petits nuages, les nuages de beau temps, là, les cumulus d'été, les petites boules de coton qui flottent dans le ciel, sont peut-être un petit peu grands, mais pas trop. Les cumulonimbus dont on parlait tout à l'heure, qui ne sont pas des professeurs multiscolaires, mais multi-écoles, mais les plus gros nuages normaux, les nuages de tempête, les nuages d'orage, qui peuvent faire des kilomètres de haut, ceux-là sont colossaux. C'est une des machines fabuleuses dans le ciel. Et ils sont beaucoup plus gros. Alors si on récupérait toute l'eau qui était dans ces nuages et à un moment donné, et qu'on les mettait quelque part, ça peut varier de, je sais pas moi, quelques centaines de tonnes à plusieurs milliers de tonnes.
Vous dites à un moment donné, c'est important parce que les nuages sont sans cesse mouvants.
Oui, il faut imaginer une sorte d'air qui monte, d'accord ? Vous partez de la surface de la Terre et vous avez l'air qui monte et qui va arriver à un endroit particulier où la température, disons, est pile la bonne pour que les gouttelettes se forment. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous regardez le ciel de beau temps, là, les cumulus, les petits cotons qui flottent, ils ont tous leur dessous qui est plat. On a l'impression qu'ils sont posés sur une nappe invisible dans le ciel et qu'ils avancent. Mais en fait, c'est pile la température à laquelle la vapeur devient des gouttelettes. C'est là. Et cet air qui monte, monte en permanence. Donc en haut des nuages, les gouttelettes vont s'évaporer à nouveau et en dessous, elles deviennent gouttelettes. Donc c'est quelque chose qui n'est pas figé. C'est pour ça que les formes changent en permanence dans le ciel.
Et il danse avec ses bras, Christophe Gelfard, quand il parle des nuages. Ryoko Sekiguchi.
Oui, parce que moi, j'ai une question justement. Est-ce qu'il y a quelque part sur Terre que les nuages ne peuvent pas se former? En fait, pour autant, donc, il y a des contrées qui ne connaissent pas la neige. Alors pour les nuages,
un cauchemar, non?
Il y a le désert d'Atacama au Chili, où il n'a pas plu depuis, certains endroits, il n'a pas plu depuis plus de 100 ans. Alors, ça, c'est aussi lié à la façon dont l'air circule dans le ciel. Je peux vous raconter rapidement?
Allez-y.
La Terre est une boule. Et il faut savoir que l'immense, si ce n'est la quasi-totalité de l'énergie de la Terre vient du Soleil. Le Soleil va donc darder de ses rayons notre planète et ceux qui traversent le ciel et touchent la surface, vont réchauffer la surface. L'endroit où ce réchauffement, cette énergie est la plus grande, c'est l'équateur. Parce que là, les rayons arrivent verticalement, ils viennent frapper le sol de la Terre, ils réchauffent, il y a des masses d'air colossales qui vont monter dans le ciel. Mais il se trouve qu'on peut définir une sorte de toit du ciel. Mmh. Un endroit à partir duquel la température, au lieu de baisser, va remonter. L'air va se réchauffer. Et du coup, les nuages qui montent de plus en plus haut vont taper contre cet endroit où la température s'inverse et au lieu de continuer à monter, ils vont s'étaler sur les côtés. Ils vont partir sur les côtés. Quand on est à l'équateur, ça va soit vers le nord, soit vers le sud. À un certain moment, si vous voulez, cette Terre va redescendre pour une raison qui est liée au fait que la Terre tourne. Donc l'air va redescendre, mais il n'aura plus d'eau.
Ah oui.
L'eau est tombée avant. C'est pour ça qu'il pleut tout le temps en Équateur, quasiment tous les jours, et dans les régions subtropicales, l'air qui redescend est sec. Ah, et si vous regardez un globe de la Terre, vous allez voir qu'il y a des bandes au niveau subtropical où il y a des déserts partout. Ces bandes-là, c'est parce que l'air qui vient de l'Équateur n'a plus d'eau, il est déjà tombé et il redescend.
Ryoko Sekiguchi, l'auditrice tout à l'heure nous parlait des mamas, qu'on appelle aussi les mamatus. Oui. Vous les connaissez, ces nuages en forme de poche
ou
de sein.
Oui,
d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils s'appellent les mamatus.
En japonais, ça s'appelle Chibusagumo. Et puis, c'est vrai que, à la fois, donc, les Japonais avaient toujours une relation très, très, enfin, intime avec les nuages. Parce qu'on connaît les lexiques. Et puis, enfin, il y a des nuages enchevêtrés. Il y a les nuages comme les satins. Il y a les nuages, les nuages fleurs. Ça ne veut pas dire que c'est les nuages fleuris, mais
donc, ce sont des mots de la langue japonaise.
Ce sont des mots et aussi en fait pour la peinture traditionnelle, il y a beaucoup de nuages. Ça ne veut pas dire que en fait il y avait beaucoup de nuages en fait dans la réalité, mais ça voulait dire c'est le temps qui passe. Quand vous voulez changer de scène, il y a toujours des nuages. Par exemple, c'est la représentation de temps.
Assurément, les mots nous manquent pour parler des nuages. Existe-t-il des verbes à la hauteur? Le mieux, ce serait d'en inventer, comme l'a fait Francis Ponge, le poète. Voici un extrait de ses pochades en prose. Dès le matin, le ciel se dalle, se marquette, se pave, se banquise, se glaçonne, se marbre, se cotonne, se coussine, se cimente, se géographise, se cartographise. Voici sur le tard du jour que le ciel se duvette, se plumote, s'édredonne. Il se pompadourise, se douillette, se matelasse, se capitonne de soie grise, gris, rose, bleu, pervenche, très pâle. Le voici qui se dos de fauteuil. Ryoko Sekiguchi, vous qui écrivez en français, alors que ce n'est pas votre langue maternelle, est-ce que vous pensez que les nuages méritent de bousculer le vocabulaire et d'inventer des mots?
Ah bah oui, bien sûr, parce que on est tout le temps entre ces mots et les et les enfin et les phénomènes voilà, donc c'est aussi pour ça que par exemple j'ai fait aussi donc ce livre de cuisine aussi parce que en fait dans la cuisine japonaise traditionnelle, il y a beaucoup de noms de plats qui portent
le nom des nuages.
Le nom des nuages, par exemple l'oursin. L'oursin. Oui, alors ça s'écrit avec l'écarlate et le nuage. Donc c'est-à-dire que c'est le nuage rouge, nuage écarlate. Donc c'est bon, vous direz que ça ne ressemble pas à un nuage, mais enfin pas pour nous.
Un nuage qui pique, hein. Ryoko Sekiguchi, peut-être une recette piochée dans ce livre, le nuage, 10 façons de le préparer. Moi, j'aime beaucoup le coco nimbus.
Ah oui, coco nimbus.
De quoi s'agit-il?
Alors, c'est la recette de chef Sugio Yamaguchi avec lequel on a fait le livre. Donc, c'est qu'il a, parce que comme on a parlé, en fait, chaque pays a son nuage. Donc, il a été en Vietnam. C'est là où il a trouvé le coco nimbus, hein, c'est le doux noix de coco qu'on coupe et qu'avec le jus de coco, on obtient, enfin, on réchauffe et on obtient avec un peu de gélatine et en fait, passer sur le tamis et fouetter. Et vous imaginez donc une sorte de nuage qui monte.
Donc ça fait un nuage à la noix de coco.
Voilà.
Qui monte au-dessus de la noix de coco.
Et qui est une sorte de boisson nuageux et c'est très très bon, très facile.
Je veux boire du coco nimbus. Frédéric, un auditeur, nous écrit un message sur les nuages de l'amour. Votre émission m'a fait penser à ma chérie que je ne vois pas assez, écrit-il. Nous nous envoyons souvent des nuages. Ils peuvent être des caresses ou des baisers. En tout cas, l'emoji nuage, dit-il, est un synonyme de câlin.
France Inter. Dorothée Barba. L'été comme jamais.
Tandis que je frappe le sol, je frappe le ciel de ma voix. Does this mean? Does this mean? Does this mean? This is me, this is me,
C'était Yeli Yeli sur France Inter. L'été comme jamais. Un éloge des nuages ce matin avec Ryoko Sekiguchi, traductrice et écrivaine, et avec Christophe Galfard qui est physicien. Je voulais que cet éloge des nuages soit aussi un hommage à celles et ceux qui aiment les nuages. Aussi doit-on parler ce matin de Luke Howard, celui qui leur a donné des noms. C'était un pharmacien britannique qui était aussi météorologiste, et cet homme est au cœur d'un roman enchanteur, disponible en poche chez Folio, à glisser dans votre valise si vous partez en vacances. Ce roman s'appelle « La théorie des nuages ». Son auteur, Stéphane Audoghi, est au bout du fil. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez publié ce livre en 2005, Stéphane Audoghi. Il raconte l'histoire d'un homme très riche, un couturier japonais qui collectionne les livres sur les nuages. Il engage une bibliothécaire pour en faire l'inventaire et il se met à parler à cette femme de tous ceux dans l'histoire qui se sont passionnés pour les nuages, notamment celui qui leur a trouvé des noms, les cirrus, les nimbus, les cumulus. Luke Howard, on suit donc en parallèle dans votre livre la rencontre entre ce collectionneur et cette bibliothécaire et les histoires qu'il lui raconte. Comment est née chez vous l'idée de ce roman ? Le nez en l'air, j'imagine ?
Effectivement, le nez en l'air, et parce que j'habitais Londres à l'époque et que, comme beaucoup de gens, je me couchais dans les parcs et je regardais le ciel. Je pense que la contemplation des nuages est essentiellement quelque chose de solitaire. Une solitude peuplée, certainement. Mmh. Et voilà. Donc, à partir de là, il suffit de suivre les nuages là où ils vous portent.
Il faut être un peu bête et l'être avec une sorte d'obstination irraisonnée pour s'intéresser aux nuages. Pour la plupart des personnes de bon sens, les nuages sont là et puis c'est tout. Que dire d'autre ? Ils font partie du décor. Voilà ce que dit le collectionneur à la bibliothécaire dans votre livre. Est-ce que vous pensez parfois la même chose que lui ?
Ah, tous les jours. Je pense qu'il faut s'intéresser essentiellement à des questions que la société nous désigne comme vides de sens, et elles sont souvent porteuses d'autres choses. Et les nuages, vraiment, c'est une espèce de pensée de la totalité, une pensée du monde comme système, d'une espèce de poésie permanente. La dernière phase de nature dans les villes sururbanisées où nous vivons, donc oui.
Alors, Luke Howard, je le disais, c'est celui qui a classifié les nuages, qui leur a donné des noms. Mais il avait un concurrent, un Français, nommé Lamarck, naturaliste. Pourquoi sa classification à lui est-elle tombée dans l'oubli, Stéphane Audoghi ? Pourquoi les noms qu'il a donnés aux nuages n'ont-ils pas été retenus ?
Il semble, c'est tout simple et très français, je trouve, c'est que Lamarck, par patriotisme mal placé, a donné des noms français aux nuages.
Ça donnait quoi ?
Des noms. Alors, il y avait des nuages pommelés, il y avait des nuages, enfin, des très jolis termes, bien entendu, mais qui renvoient à une idée de la poésie très, très littéraire qui était une impasse totale à un moment où le français n'était plus la langue mondiale. De sorte que Howard n'a pas choisi l'anglais, il est remonté au latin. Et cette espèce de pas en arrière est un pas en avant.
Quel est votre nuage préféré, Stéphane Audoghi ?
Ah, je finis par aimer les brouillards parce que c'est les nuages qu'on peut traverser à tout moment. Donc oui, les brouillards, je dirais, les brouillards sur les lacs.
Et vous pensez, comme Luke Howard dans votre roman, que parfois ce sont les nuages qui regardent passer les hommes ?
Ah, mais ça me paraît incontestable. Le caractère cyclique des nuages leur donne un avantage que, à moins de croyant de la métempsycose, on n'a pas en tant qu'humain. Donc oui, bien sûr, et je pense que cette espèce de façon de considérer que les nuages nous regardent est une pensée philosophiquement intéressante et écologiquement intéressante. Voilà.
Une manière de les protéger, vous voulez dire ?
Une manière de décentrer notre regard et de ne pas nous admirant les nuages, mais vraiment d'accueillir les nuages, qui est toute autre chose.
La théorie des nuages, c'est à lire en livre de poche chez Folio. Merci beaucoup Stéphane Audoghi. Merci, vous êtes encore là ? On l'a déjà perdu. Merci à vous et bonne journée. À bientôt sur Inter.
Pour les zones de l'Atlantique et de la mer du Nord, coup de vent à fort coup de vent en cours prévu pour Tyne, Dogger, Humber, Tamise, Finistère, Irish Sea, Rockall, Malines et Hébrides. Grand frais en cours prévu pour Viking, Utsir, Forties, Cromarty, Forth, Fisher, German, Pas-de-Calais, Antifère, Casquet et Shannon. La situation générale et l'évolution, anticyclone 2036, hectopascal centré à 700 000 à l'ouest de la Bretagne, se prolongera par une dorsale vers le golfe de Gascogne, évoluera peu. Les prévisions par zone pour ces prochaines 24 heures. Pour Viking et Utsir, vent de nord, force 6 à 7, mollissant nord-ouest 2 à 4 le matin, puis revenant sud 4 à 5 sur l'ouest à la fin. Mer forte, localement très forte au début, agitée demain, des averses.
Ceci était une Madeleine sonore, la météo marine de Marie-Pierre Planchon. Nous étions nombreux, et je m'inclus dedans, à aimer écouter la météo marine sans rien en comprendre du tout. Finalement, c'est la même chose que pour les nuages. Nul besoin d'être physicien ou spécialiste de météo pour être fasciné. Cela rejoint un message qu'on a reçu d'une auditrice, Brigitte. « Les noms des nuages m'importent peu, dit-elle. Ce qui me fascine, ce sont leurs formes. Avec eux, enfant, j'inventais des histoires avec des personnages différents selon la forme. Je continue aujourd'hui avec mes petits-enfants. On s'allonge dans l'herbe, dit-elle, et nous nous racontons de magnifiques histoires. Anne-Laure nous écrit que son mot préféré de la langue française, c'est le mot pareidolie. Depuis toujours, j'ai pris grand plaisir à observer des visages dans tout ce qui m'entoure. Hier encore, j'ai cru voir le portrait de Zeus dans les nuages, wow, régnant sur l'Olympe. La pareidolie, précisons-le, c'est la tendance qu'a notre cerveau à reconnaître des formes familières dans des formes qui ne signifient rien pour lui. Ryoko Sekiguchi, que voyez-vous dans les nuages ?
Alors, mais pas du tout les visages, non, parce que je pense qu'en fait, j'ai parlé de lexique en japonais, mais je pense qu'on a tendance à nous, enfin les japonais, à voir plutôt des autres phénomènes, c'est-à-dire les oiseaux, bien les plantes, plutôt que les visages, pardon.
Oui. Et vous, Christophe Galfard, vous voyez des visages ?
Ah oui, je vois un peu de tout.
Ah, oui.
Ça dépend du nuage. Mais c'est ça qui est extraordinaire avec les nuages, c'est que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise vision. Tout le monde est égal dans ce qu'il projette sur les nuages et peut s'écrire l'histoire qu'il ou elle veut.
Je parlais tout à l'heure de votre trilogie de romans jeunesse, Christophe Galfard, Le Prince des Nuages. Tristram, le héros de cette trilogie, vit dans un village construit sur les nuages. Alors, c'est possible de marcher sur un nuage?
Pas forcément, mais il y a quand même énorme. Il s'appelle Tristram, mais c'est drôle que vous disiez Tristram, parce que l'origine du Tristram est Tristram Shandy. Mais il s'appelle Tristram, et ce sont des formidables usines. Les nuages qui permettent qui utilisent l'énergie de l'eau, de la vapeur d'eau pour se maintenir vivant dans le ciel, vivant, j'exagère un petit peu. Et c'est cette usine-là qu'utilisent les enfants dans...
Mais on ne peut pas marcher dessus.
Malheureusement, on ne peut pas encore marcher dessus.
Ni les attraper d'ailleurs, ni les prendre dans la main.
Cela étant, on fait partie d'une génération d'humains qui est capable de voler au-dessus.
Et ça, c'est une expérience très forte.
On
s'en souvient toujours la première fois, que ce soit en montagne ou en avion, quand on a eu la chance de voir les nuages d'au-dessus.
Mais je pense que de nombreux monarques et tyrans et empereurs auraient donné leur royaume pour vivre cette expérience que nous, on peut vivre.
Cela donne de très belles pages dans le roman de Stefano Doggi dont on parlait tout à l'heure. La première fois que Luke Howard grimpe dans la montagne et voit les nuages d'au-dessus, il les comprend mieux. Quel est votre nuage préféré, Christophe Galfard?
Alors moi, j'adore les nuages de cristaux de glace. Tout à l'heure, je disais qu'ils étaient faits de gouttelettes d'eau, les nuages, mais lorsqu'ils sont beaucoup plus hauts dans le ciel et qu'il fait beaucoup plus froid, au lieu de devenir des gouttelettes, la vapeur d'eau devient des cristaux de glace qui sont absolument magnifiques, plus beaux que tous les bijoux du monde. Il n'y a pas deux cristaux de glace identiques. Ils sont tous uniques. Et lorsqu'ils apparaissent dans le haut du ciel, ça fait ces petites plaques blanches qui sont un petit peu indistinctes, mais qui parfois peuvent ressembler à des cheveux d'ange qui vont couler. Ça, c'est de la neige de cristaux de glace qui coule de ces nuages et qui s'évapore avant d'atteindre le sol. Donc ça n'arrive jamais jusqu'à nous, ça reste là-haut. Et lorsque, par exemple, la nuit, la lune passe devant, ça nous fait des halos colorés, des sortes d'arc-en-ciel de lune ronds autour de la lune que je trouve absolument magnifique.
Que nous reste-t-il à découvrir, à comprendre sur les nuages d'un point de vue scientifique ?
Alors d'un point de vue scientifique, on est loin d'avoir tout compris sur les nuages. Par exemple, ce sont des machines extraordinairement complexes qui mettent en jeu énormément d'interactions et de données, de pression, de température, de qualité de l'eau, de petites poussières qui vont faire que les gouttelettes se forment. On est loin d'avoir compris tout ça.
Une auditrice nous a laissé une note vocale sur l'application France Inter. On écoute Virginie.
Bonjour, je m'appelle Virginie, je suis maîtresse d'école en petite section. Et pour commencer la journée, souvent on fait une petite méditation où les jours où justement les jours de pluie, j'habite en Bretagne et il y en a, on attrape les nuages. Donc on se met sur la pointe des pieds, on s'étire pour attraper les nuages. On les met dans notre bouche, on les mâche, on les mange. Et après, je demande à mes élèves le goût de leurs nuages. C'est une méditation que les élèves adorent.
Alors ça doit vous plaire, Ryoko Sekiguchi.
Oui, c'est la pratique que je fais aussi, assez quotidiennement. Oui,
vous le faites tous les jours?
Non, mais c'est vrai que ça m'arrive d'attraper les nuages, en fait, concrètement, bien sûr.
De quoi se nourrissent-ils, les nuages? Vous posez la question dans votre livre, Le nuage, 10 façons de le préparer.
Oui, parce que les nuages aussi doivent se nourrir de quelque chose.
C'est une chaîne alimentaire, hein, finalement.
Bien sûr. Donc, parfois, les nuages mangent des oiseaux. C'est exquis, les nuages, en fait, qui ont un peu de goût d'oiseau. Et puis aussi, les nuages peuvent manger, en fait, nous. Parce que vous savez, enfin, on a parlé de d'être au-dessus de nuages, mais parfois on est dans les turbulences. Donc, on sait parfois, enfin, on entend parler, enfin, rarement de d'avions qui disparaissent. Alors, qui sait si c'est des nuages qui les ont mangés? C'est possible aussi.
Voilà, on est à mi-chemin entre la poésie et la cuisine, vous l'avez compris. Ces recettes ne sont pas toutes à prendre au premier degré, mais il y a dans votre livre une histoire de beurre qui me plaît beaucoup. On peut fabriquer des nuages avec du beurre, et là c'est 100% vérifié.
Oui, bien sûr, parce que, comme on a parlé, en fait, vous savez, parfois le beurre dans le frigo, en fait, prend l'odeur du frigo. Et c'est le même système. C'est-à-dire que vous prenez un morceau de beurre, quelque chose qui, par exemple, que vous trouvez dans le jardin, les fleurs, bien les aiguilles du pain, un peu de terre aussi, parce que ça peut être quelque chose de non comestible. Vous le mettez dans une boîte, au frigo, vous le laissez une nuit ou deux nuits.
Avec du beurre dans la boîte?
Avec du beurre. Mmh. Et en fait, c'est les éléments olfactifs qui s'évaporent et puis qui se déposent sur le beurre. Et c'est le gras qui attrape l'odeur. Et voilà, comme ça, vous avez votre beurre de nuage de fleurs, par exemple.
Le nuage, voilà, le nuage de terre ou de pain qui va se déposer sur le beurre. Christophe Galfard.
Et ça, c'est une fois de plus quelque chose d'extrêmement
la physique
terrestre. Physique, oui, mais regardez. Les nuages que nous avons, nous, sur Terre, sont faits d'eau, à base d'eau. Et pour votre cuisine, c'est parfait, parce qu'on a toutes les réactions qui vont avec. Mais toutes les planètes n'ont pas des nuages qui sont faits à base d'eau. Par exemple, Vénus, qui est une planète qui est proche de nous dans l'espace, a des nuages pleins, elle a des tempêtes, elle a tout ce genre de choses, et elle a même de la pluie, sauf que les nuages et les gouttes de pluie qui tombent là-bas ne sont pas faites d'eau, mais d'acide sulfurique. Donc ça n'a plus rien à voir. Et c'est beaucoup plus compliqué de vivre en dessous, ça vous trouerait en morceaux en tombant, c'est acide. Il existe même des planètes, on a découvert ça récemment, dont les nuages ne sont même pas faits de liquide comme ça, mais de glace, de verre.
Wow.
De verre fondu, de verre solide, qui peuvent vous mitrailler du ciel lorsque ça tombe. Des gouttelettes
de glace. Les
nuages
nous mitraillent.
Oui, des gouttelettes qui ne sont faites de petits morceaux de verre fondu et qui viennent vous mitrailler du ciel en détruisant tout. Les nuages que nous avons sur Terre appartiennent à la Terre.
Heureusement.
Il existe probablement d'autres planètes ailleurs où les nuages sont faits d'eau. Mais pour l'instant, il y a chez nous.
Les nuages appartiennent à la Terre. On va écouter un autre auditeur qui nous a laissé une note vocale.
Bonjour, et bien merci pour votre émission sur les nuages. Étant parapentiste, les cumulus, les nuages de beau temps, sont de véritables invitations au voyage. C'est là où on peut voir où l'air chaud monte, et donc c'est ce qui nous permet de nous déplacer de nuage en nuage. Et je pense que les parapentistes sont une grosse communauté d'amoureux des nuages, mais évidemment pas les nuages d'orage. Uniquement les nuages de beau temps. Merci.
Merci à vous Théo pour ce message de parapentiste. Il traverse les nuages. C'est quelque chose qui fascine souvent les enfants, Christophe Galfard. Qu'est-ce qui se passe quand on traverse un nuage?
C'est drôle parce que une des raisons pour laquelle j'ai écrit Le Prince des Nuages, c'était parce que vous savez, tous les 5-6 ans, il y a ces rapports du GIEC, du rapport sur le climat mondial qui paraissent. Et dans les, au début des années 2000, il y a un rapport qui était paru, qui était le premier vraiment médiatiquement couvert. Et toutes les couvertures de journaux ou de JT étaient sur la fin du monde, en gros, par rapport au réchauffement climatique. Et les adultes ont la mauvaise habitude d'écouter ça, de faire « oh là là, c'est terrible », et deux jours après, d'avoir complètement oublié. Les enfants, pas du tout. Les enfants qui reçoivent ce genre d'informations, ça reste en eux. Mmh. Et du coup, je me suis dit qu'il leur fallait une soupape. Il leur fallait non pas des craintes, même si elles sont réelles, mais comprendre. Oui. Qu'on leur donne les moyens de maîtriser ces faits-là et du coup d'expliquer comment fonctionne le ciel, d'expliquer ce qu'est le climat, ce que signifie le réchauffement climatique. C'est ce que j'ai voulu faire dans Le Prince des Nuages. Et au lieu d'apporter, d'asséner des choses aux enfants, j'ai voulu justement qu'ils aillent dans les nuages eux-mêmes. Et donc, ils aient cette expérience. Les enfants habitent sur les nuages pour être dans le ciel. Par moments, ils vont traverser des nuages, ils vont tomber à l'intérieur de cumulonimbus, par exemple, ces tempêtes d'éclairs, etc. Et ça, pour donner un exemple sur l'expérience que peuvent avoir ces enfants, on peut très bien l'imaginer en tant que physicien ou en tant que quand on comprend les lois. Mais il existe aussi des témoignages. Par exemple, il y a un pilote dont j'ai oublié le nom de l'armée américaine qui a eu une avarie dans son avion. Qui s'est éjecté et qui manque de peau est tombé dans un de ces cumulonimbus, un de ces nuages à orage. Sa chute a duré, normalement aurait dû durer quelques minutes, elle a duré plus d'une demi-heure. Parce qu'il est tombé, les vents l'ont remonté, il est redescendu, redescendu, sans ouvrir son parachute, sinon il serait écrasé. Et il s'en est sorti vivant. Parce qu'il a eu la présence d'esprit de n'ouvrir son parachute qu'une fois passé en dessous du nuage. Et lorsque les morceaux de grêle cessaient de lui taper dessus.
On va écouter à présent la Canadienne Joni Mitchell. Elle est sans doute celle qui a le mieux transformé les nuages en musique. Un extrait de l'album Clouds, ça ne s'invente pas, 1969. Je vous traduis le début des paroles. Des arcs-en-ciel et des flots de cheveux d'ange, des châteaux de crème glacée dans le ciel et des canyons de plumes. C'est ainsi que je voyais les nuages. Both Sides Now sur France Inter.
And flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done. The clouds got in my
Joni Mitchell, Both Sides Now. La programmation musicale de l'été comme jamais est signée Jean-Baptiste Audibert. Ryoko Sekikuchi et Christophe Galfard, invités de l'été comme jamais. Nous avons parlé des nuages ce matin et je vous pose à présent la question que je soumets à tous mes invités. J'aimerais connaître un sujet, sans doute un parmi d'autres, et dans n'importe quel domaine sur lequel vous avez changé d'avis. Ryoko Sekikuchi.
Alors, c'est le régime alimentaire. Mm-hmm. Pendant longtemps, je faisais partie de ces filles qui essaient tout le régime possible et imaginable pour maigrir et que je ne réussissais pas. À un moment donné, j'ai décidé de ne manger que ce que j'aime et ce qui me fait plaisir. Et là, paf, c'est fini. Là, je garde toujours mon corps qui me plaît.
Voilà une idée qu'elle est bonne. Et vous, Christophe Galfard, sur quel sujet avez-vous changé d'avis ?
Le réchauffement climatique. Je me pensais que on était fichu à cause de ça, parce qu'on ne ferait jamais rien pour changer la façon dont on vit et la façon dont on se comporte. Mais je commence à avoir un petit espoir.
Donc vous êtes plus optimiste aujourd'hui ?
Oui.
Votre livre, le plus récent, E égale MC2, l'équation de tous les possibles, est publié chez Flammarion. Et puis Le Prince des Nuages, petite trilogie pour les enfants. À partir de quel âge d'ailleurs ?
À partir de 8-9 ans.
Chez Pocket Jeunesse, chez PKJ. C'est à lire en 3 tomes. Donc Le Blueberry, Le Matin des Trois Soleils et puis La Colère du Ciel et du Vent. Ce petit livre de recettes étonnant et d'une poésie folle, Le Nuage, 10 façons de le préparer, signé Ryoko Sekiguchi avec Valentin Deveau. C'est Shujo Yamaguchi, pardon, il vient d'être réédité. Édition de l'Épure. Je recommande aussi 961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent chez POL. Ce sont des nombres magiques. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci
d'avoir la tête dans les nuages et à bientôt sur Inter.